marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Il faut faire parler les silences de l'histoire.
Lin Zhao, dissidente chinoise.
Très souvent, ils ne me donnent même pas de soupe au riz, ni d'eau à boire. Ensuite, j'ai dû boire l'eau avec laquelle on se lavait le visage. J'avais parfois le vertige, car j'écrivais au moins 1000 mots par jour, avec mon sang. Avec mon sang.
Les vagues de répression des ennemis du peuple reviennent régulières, récurrentes en Chine communiste. En 1957, pendant la parenthèse des 100 fleurs, ils avaient cru pouvoir s'exprimer et ils avaient aussitôt été persécutés comme droitiers. Pour Lin Zhao, jeune étudiante enthousiaste qui avait jadis espéré son entrée au parti, l'accès en est définitivement barré. Quand on parle d'elle, il faut toujours s'exprimer à la façon de la poésie classique chinoise, allons-y. Viendra le temps de chevaucher la mer et de fendre les flots, me voilà comme hissé pour traverser la mer déchaînée. Lin Zhao sait, dès cet instant, 1957-58, que son destin est l'écriture, certainement, mais que le sacrifice, probablement, le conclura. Elle refuse, en effet, l'autocritique. Elle est arrêtée en 1960, à 30 ans à peine. Et le jour de la fête du travail, 1968, un policier se présente au domicile de sa mère. Sa famille doit payer les 5 centimes de la balle qui a été nécessaire pour son exécution. Elle a été l'une des premières et innombrables victimes de la révolution culturelle. Lin Zhao n'a pas été réhabilité, le parti a cependant révisé sa condamnation et la sûreté publique a rendu à la famille les textes qu'elle n'a cessé de rédiger depuis sa prison, parfois, on l'a entendu, avec son sang. De mon feuillet s'écoulent des gouttes, je ne sais ce dont il s'agit, marques de sang, traces de larmes se mélangent. Hors du petit groupe des proches qui conservaient son souvenir, une des premières à enquêter sur elle sera la fondatrice des mères de Tiananmen. Et en 2004, un réalisateur sort un film qui lui est consacré et qui aura un grand écho parmi les milieux intellectuels. Pour le mener à bien, Hu Jie a perdu son travail, mais il a beaucoup contribué à rassembler un corpus de textes de plus en plus important dont la circulation se fait à mesure sur le net. Lin Zhao se voyait comme un jade brisé, un œuf cherchant à briser un mur, elle est devenue une figure essentielle de la dissidence chinoise. Ses cendres ont enfin été enterrées et 4 caméras fixées sur des troncs d'arbres surveillent sa tombe.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Anne Kerlan, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors, vous travaillez sur l'image en Chine depuis toujours, les peintres chinois du XVIIIe siècle, le cinéma chinois. Vous étiez venu ici pour nous parler de celui de Shanghai. Et il y a une petite dizaine d'années, allant à un festival du cinéma chinois au Voûte, dans le 13e arrondissement, c'est-à-dire un peu dans une cave, vous découvrez ce film de Hu Jie qui est consacré à Lin Zhao.
Oui, à la recherche de l'âme de Lin Zhao, c'est le titre de ce film que Hu Jie a réalisé entre 2000 et 2004. Et ça a été un véritable choc pour moi que de voir, de rencontrer cette histoire et cette figure que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler.
Et depuis, vous êtes attaché à écrire sa biographie qui vient de paraître sous votre signature aux éditions Fayard. Je parlais de la présence de ces textes sur le net. Si vous tapez en Chine, depuis la Chine, le mot Lin Zhao.
Il ne se passe pas grand-chose. Ça fait partie des multiples mots interdits. Alors ça évolue avec le temps, mais aujourd'hui, plus que jamais, si vous tapez le mot Lin Zhao, vous n'aurez rien. Et moi-même, depuis la France, quand j'ai fait ma recherche, entre 2008, où j'ai commencé à faire cette recherche, j'ai pu avoir accès à un certain nombre de sites, de blogs sur Internet chinois. Et quand j'ai réessayé, au moment où je bouclais mon livre, pour vérifier les liens, bien souvent, je suis tombée sur des pages inexistantes, des sites bloqués.
En revanche, en France, vous pouvez voir sur YouTube le film que vous citiez et que vous accompagnez souvent dans des séances commentées ici ou là. Elle est née dans une ville à une heure ou deux de distance, enfin ça dépend de l'état des routes, de Shanghai, que vous et moi on a eu le privilège de connaître avant qu'elle ne soit défigurée par le tourisme de masse. Une très belle ville de canaux, de jardins. oui, de raffinement, d'élégance.
Suzhou, qu'on appelle parfois la Venise de l'Est. Et c'est une ville, en effet, qui ramène au passé impérial et à une Chine lettrée, de poésie, de peinture.
Son père était un descendant de mandarin. Sa mère était plus militante. Le père était du genre austère, rigoureux, je fais mon devoir. La mère imaginait un avenir meilleur pour la Chine. Et Lin Zhao, elle naît 31 dans un contexte de guerre, elle grandit pendant la guerre, et puis une fois la guerre avec le Japon finie, la guerre continue entre les communistes et les nationalistes jusqu'à la conquête par le parti de sa ville natale en 1949. Et vous dites, les Chinois n'ont pas la même expérience partagée de la guerre que nous autres sur un territoire plus petit français avons pu avoir.
Oui, et je pense que ça a joué un rôle important dans l'histoire de Lin Zhao et de sa famille. C'est-à-dire que d'un côté, le père, alors qui était fonctionnaire plutôt que mandarin, mais
descendant de mandarin, c'est ça que non, plus ou moins. Bon, peu importe.
En tout cas, le père, lui, est allé rejoindre le gouvernement dit libre à Chongqing, donc autrement dit le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek, tandis que la mère de Lin Zhao, de son côté, est restée dans la ville de Suzhou et à Shanghai pour entrer dans la résistance. Et en effet, sur un territoire aussi immense, entre les parties occupées par les Japonais et les parties où le gouvernement de Chiang Kai-shek continuait de mener la guerre entre les partis, les zones libérées par les communistes. Il y a eu des expériences très très multiples de la guerre et des familles comme celle de Lin Zhao se sont perdues de vue mais pendant des années et elles étaient à distance de milliers de kilomètres.
La famille se reconstituera mais très provisoirement en 1945. Quels qu'aient été les choix un peu différents du père et de la mère quand Lin Zhao, jeune, va commencer ses études, notamment pour devenir apprenti journaliste dans un journal du parti. Elle souffrira du fait que ses parents appartiennent à une classe qui n'est pas jugée positivement par le parti auquel elle voudrait adhérer, elle.
Ah ben, ses parents sont catégorisé comme appartenant à la bourgeoisie. Et puis Lin Zhao a un petit peu joué un rôle dans tout cela, puisque de façon tout à fait naïve et enthousiaste, au moment où elle s'inscrit pour apprendre justement son métier de journaliste dans cette école du Parti communiste, à la question quelle est l'origine sociale de vos parents, comme à l'époque elle est fâchée avec ses parents et qu'elle veut les renier, elle écrira que ses parents sont de la classe bourgeoise. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette étiquette, non seulement sera attribuée à ses parents, mais que du coup, elle en sera elle-même considérée comme appartenant à la classe bourgeoise.
Et puis, elle voit dès le départ, dans le cadre de la réforme agraire, Mao disait, quand la réforme agraire, ça concerne 300 millions de personnes, c'est une guerre. Elle constate les violences quasi régulières, la dénonciation des propriétaires fonciers, l'appel à la foule qui entoure les estrades, battez-les, pillez-les.
On a le sentiment, à lire à la fois ce qu'elle raconte et puis d'autres témoignages et puis des recherches d'historiens, qu'en fait, c'est une forme de guerre civile qui se déroule encore au moment de la réforme agraire dans certaines régions de Chine. Et Lin Zhao prend parti, elle est du côté des communistes et elle assiste à la violence et elle n'aura pas peur elle-même de faire acte de violence.
Alors elle voit aussi l'importance grandissante que les cadres du parti, qui décident du destin des uns et des autres, ont. Je fais intervenir ici ce que disait le vieux Lucien Baudard, journaliste qui avait promené sa silhouette un peu partout en Chine et qui en restait dubitatif.
Quand j'allais à travers la Chine, qu'est-ce que je voyais finalement? Je ne voyais pas la masse, je la voyais peu. Je voyais d'une part ce que j'appellerais les ombres. Les ombres, c'était les anciens bourgeois qui avaient traversé toutes les épurations, que peu à peu, on avait descendu moralement. Descendre, c'était se rehausser. J'ai vu toutes ces ombres, et toutes ces ombres, d'une certaine façon, avaient été converties. Il y avait évidemment, en dessous de ça, je le sentais, un système de cruauté. Alors, en dehors des ombres, les autres gens que j'ai vus, c'était les cadres du Parti communiste. Parce que partout où on allait, on ne voyait que des cadres. On ne voyait pas le peuple. Mao se demande, est-ce qu'une nouvelle aristocratie n'est pas en train de se créer? l'aristocratie des lettres rouges. Et le danger est d'autant plus réel que, en effet, le système des cartes risque de devenir héréditaire.
Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le Mao va lancer en 1957 la campagne des sans-fleurs. Il se méfiait des intellectuels, il avait besoin d'eux comme levier, et il imagine une opération qui est peut-être un piège, qui commence donc dès 56, et puis s'épanouit en 57.
Oui, dès le début de l'installation au pouvoir de Mao, il y a une relation d'une grande ambivalence avec les intellectuels qui sont à la fois nécessaires parce que pour que le pays se développe, on a besoin d'eux. Il s'agit à la fois d'enseignants, mais aussi de techniciens, d'ingénieurs, enfin toute cette partie de la population qui peut contribuer au développement de la Chine. Et puis en même temps, il se méfie d'eux parce que ce sont des gens qui pensent, ce sont des gens qui réfléchissent, ce sont des gens qui peuvent se poser des questions, qui peuvent avoir des doutes. Et donc, en effet, ils sont ceux qui vont constater l'émergence de cette aristocratie dont parle Lucien Baudard, l'aristocratie rouge, ces cadres du Parti communiste qui, eux, par contre, ne font pas partie de cette classe intellectuelle et qui peuvent dénoncer cette nouvelle aristocratie.
Au moment des sans-fleurs, printemps 1957, Lin Xiao, notre héroïne, est étudiante à l'université de Beida à Pékin, et vous racontez comment, au moment de la fin de l'année universitaire, avec des camarades, elle se rend en excursion au palais d'été, et puis au retour, elle trouve sur les murs du réfectoire, écrit en très gros caractères, un poème qui est déjà ce qu'on appellera un dazibao, un poème que voici.
Le moment est venu, jeunes gens. Chantons à gorge déployée, écrivons nos peines et nos amours sur le papier. Ne souffrons pas en cachette, ne soyons pas indignés en cachette, ne nous plaignons pas en cachette, laissons s'exprimer nos joies et nos peines au grand jour. Qu'importe si la censure et les critiques tombent sur nos têtes comme une pluie drue et soudaine, car les jeunes pousses n'ont jamais eu peur de la lumière du soleil. Mon poème est une torche qui brûle toutes les barrières érigées par les hommes. Rien ne peut l'empêcher de briller, car son feu vient du 4 mai.
4 mai, référence à un mouvement analogue, peut-être de 1919, au début du siècle. Donc les sans-fleurs en 3 semaines, de prise de parole, d'organisation un peu partout de débats, montrent cette contradiction que vous soulignez entre les classes éduquées qui aspirent à une Chine libre, respectueuse de l'humain, et puis les cadres du parti. Et le haut-là est mis au bout de 3 semaines. Elle n'a pas été une animatrice, malgré ses talents d'oratrice de premier plan de la campagne des sans-fleurs, mais quand sont désignés les adversaires, les vaincus, les droitiers, elle se met au premier rang de ceux qui subissent la critique, en disant « moi je ne veux pas faire d'autocritique justement ».
Je pense qu'elle a elle-même tellement souffert dans ces années, on va dire, d'apprentissage du communisme, de ces séances de critiques qui ont commencé dès la réforme agraire, qu'elle ne supporte pas de les voir infliger à ses amis, des amis très proches, des personnes dont elle a pu être amoureuse, comme l'auteur de ce poème. Et en effet, alors qu'elle s'était tenue prudemment à l'écart jusqu'à là du mouvement des sans-fleurs, quand elle voit ses amis critiquer, elle les défend et elle ose prendre la parole de façon absolument, je dirais, extraordinaire, mais aussi complètement imprudente.
Un jour d'hiver, l'auteur de ce poème, dont je vous laisse dire correctement le nom.
Le poème.
L'auteur du poème qu'on vient d'entendre.
Ah, de Shen Zhiyi et Zhang Yuanchuan. Ils étaient deux étudiants.
Qui était l'amoureux.
Oui.
Vous racontez comment l'hiver, ils se retrouvent par hasard dans une librairie. Ils font semblant de ne pas se connaître. Ils se suivent l'un l'autre dans une ruelle obscure. Ils échangent leurs adresses sans le noter sur un bout de papier, mais en les apprenant par cœur. Mais ça ne servira à rien puisque l'auteur du poème sera envoyé en camp très peu de semaines après.
Voilà, c'est ce qui se passe quand on devient, quand on est étiqueté droitier, on est pestiféré. On n'a plus le droit de se parler ou de parler à ses camarades. À l'époque, ils étaient encore étudiants à l'université, mais ils ne pouvaient plus suivre les cours. Ils étaient en quelque sorte en résidence surveillée. Et il était bien entendu interdit qu'ils se parlent, qu'ils communiquent.
Alors, elle a beau être chrétienne, ce n'est pas une nonne. Et vous racontez beaucoup ses émois amoureux. Il en est un autre en cette fin de 57. Alors elle est dégradée et condamnée à devenir pépiniériste à l'université, puis après archiviste dans un centre de documentation un peu oublié où elle rencontre, où elle retrouve.
Elle retrouve Gan Tsui, qui est un autre droitier d'une autre université pékinoise. Et voilà, comme l'explique Gan Tsui lui-même dans ses mémoires, ils ont dû prendre soin l'un de l'autre et prenant soin l'un de l'autre, ils sont devenus amoureux. Et puis parce que le régime leur interdisait d'avoir des relations, de se fréquenter, ils se sont encore plus fréquentés parce qu'ils avaient décidé de se rebeller de cette façon.
Oui, mais vient le moment de la séparation parce que lui est envoyé dans un camp de travail au climat terrible où il passera 20 ans.
Chaque fois que je pense à la misérable année 1957, je me sens si triste que je suis saisie par un spasme de douleur. Vraiment, quand j'entends ou quand je vois mentionner cette année, je ressens une douleur aiguë, comme un réflexe conditionné. Ce fut une année triste, baignée dans le sang et les larmes des jeunes intellectuels chinois. Et s'il y eut un temps où les intellectuels chinois soumis à la tyrannie jouissaient malgré tout d'une certaine intégrité, après les 100 fleurs, ils ont presque tous été éliminés.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
30e anniversaire de Tiananmen, Anne Carland nous parle de Lin Jiao, une dissidente qui a précédé le mouvement de Tiananmen puisque elle est morte exécutée dès 1968. Lin Jiao, à qui elle a consacré un livre aux éditions Fayard. C'est vous qui avez signalé ce morceau qu'on vient d'entendre, les reflets de la lune dans la source, parce que il faut bien comprendre que cette jeune femme, élevée révolutionnairement, connaît très bien la poésie classique chinoise et qu'elle et ses amis aussi d'ailleurs s'expriment dans son vocabulaire naturellement.
Oui, alors c'est une musique traditionnelle que Lin Jiao aimait beaucoup, d'après sa sœur. Et en effet, il faut vraiment comprendre à quel point elle et ceux de sa génération étaient des gens qui avaient grandi dans une double culture, presque avec une culture lettrée, classique, chinoise, extrêmement importante. Et pour eux, la poésie est une façon presque naturelle de s'exprimer, d'exprimer les sentiments, les émotions personnelles, mais aussi d'exprimer tout ce qui relève du politique, par allusion bien entendu, mais c'est quelque chose qui se fait en Chine depuis très longtemps que d'utiliser la poésie pour faire, je dirais, pour envoyer des messages politiques. Et puis l'autre culture, c'est la culture occidentale. Les parents de Lin Jiao connaissaient tous les deux très très bien la culture occidentale et Lin Jiao cite dans certains de ses textes des auteurs comme Dickens, par exemple, qu'elle aimait beaucoup. Donc elle a cette double culture.
On l'a laissé quittant Zhang Xue. Il faut dire que dans le centre de documentation d'archives dans lequel ils travaillaient tous les deux, la campagne du grand bond en avant, qui commence à la fin des années 50, avait installé un haut fourneau. Et que quand ils se sont quittés à la gare, c'était dans une ambiance de propagande, les haut-parleurs répétant les appels au grand bond en avant, productivisme, industrialisation, haut fourneau partout, y compris donc dans les universités, à tel point d'ailleurs que les paysans transportés de force, enfin sur les fronts industriels, on était venu à négliger les bêtes et les récoltes.
Si bien que, sans paysans pour cultiver les terres, assez rapidement le pays a plongé dans la famine. Une famine tout à fait, je dirais, orchestrée par le régime politique, puisqu'en vérité, certaines des productions étaient envoyées dans les centres industriels, les centres urbains, pour nourrir les ouvriers, pour que les ouvriers puissent produire l'acier, ou alors même envoyés à l'exportation pour que, avec les devises récoltées, on puisse acheter des machines. Mais dans les campagnes, à partir de 1960, la famine s'installe et elle s'installe de façon durable pendant 2 ou 3 années, causant plusieurs dizaines de millions de morts.
Pour comprendre combien il est difficile à l'époque de savoir ce qui se passe en Chine. Mais il a fallu aussi aujourd'hui un an peut-être pour comprendre qu'il y avait 1 million de Ouïghours qui étaient dans des camps de concentration au nord-ouest de la Chine. Je vous propose d'écouter attentivement ce reportage, ce téléphonage plus exactement, brouillé de Vital Zakharenko, qui était à l'époque correspondant de l'AFP à Hong Kong et qui honnêtement essayait de rassembler de la documentation, mais n'arrivait pas quand même à saisir qu'il y a eu peut-être 20, 30...
Oui, on va parfois même jusqu'à 50 millions.
...millions de morts.
De sources chinoises officielles, on reconnaît la disette par la parole et par les actes, mais on affiche une confiance absolue dans les mesures prises. Les actes les plus voyants sont les achats massifs de céréales à l'étranger et la réorganisation très symptomatique des communes populaires. Sur un total de 650 millions d'habitants, la Chine compte 550 millions de paysans. C'est dire que l'agriculture gouverne tous les autres problèmes qui se posent au gigantesque État. La récolte 59 a été mauvaise, celle de 60 catastrophique, et celle de l'année en cours ne s'annonce pas bonne. Sécheresse au nord du Yangtze, inondation au sud, déclin de l'enthousiasme socialiste des masses. Il ne faut certes pas en conclure que le régime est menacé de chute, mais il ne peut y avoir de doute qu'une telle situation déterminera, détermine déjà, des ajustements politiques et sociaux qui bouleversent les plans du gouvernement. Ici Vital Zakharenko, correspondant de l'AFP, qui vous a parlé de Hong Kong.
Que savait Lin Jiao elle-même, dont le régime était toujours très austère et... Il a dû être aggravé un peu par la famine, mais qui touchait d'autres zones que celles où elle habitait. En tout cas, elle imagine à ce moment-là, en liaison avec une université de province très, très lointaine, de créer un groupe, Étincelle.
Alors en fait, c'est un groupe d'étudiants eux-mêmes étiquetés droitiers qui avaient été envoyés donc en rééducation dans des villages de la province du Gansu et qui sont donc directement témoins de la famine. Là, le Gansu est une des provinces qui a été les plus touchées par la famine, qui scandalisés, indignés, révoltés, envisagent de rendre public ce dont ils sont témoins. Et ils le font évidemment, comme toujours, en écrivant par des textes qu'ils publient sous forme d'un journal tout à fait clandestin qui s'appelle Étincelle. Et Lin Jiao est rentré en contact avec certains de ses étudiants et va leur donner successivement 2 très longs poèmes, l'un Prométhée, l'autre La Mouette, qui sont 2 immenses poèmes de dénonciation à la fois des conditions sociales sociale et politique du pays et à la fois plus généralement du totalitarisme qui s'installe dans le pays. Et c'est en ces termes-là que c'est analysé dans le journal Étincelle.
Il est important de reprendre le mot. Il n'y aura pas de numéro 2 d'Étincelle. Elle est arrêtée, elle va passer les 7 ans de vie qui lui restent en prison dans des conditions extrêmement difficiles, menottée des semaines durant et écrivant sans cesse, parce que menottée, doublement menottée parfois, sans stylo, on peut écrire avec son sang.
Très souvent, il ne me donne même pas de soupe au riz, ni d'eau à boire. Ensuite, j'ai dû boire l'eau avec laquelle on se lavait le visage. J'avais parfois le vertige, car j'écrivais au moins 1000 mots par jour, avec mon sang. Avec mon sang. C'est ainsi qu'ont été produits ces articles, écrits dans le sang et remplis de chagrin et d'enthousiasme des jeunes rebelles.
C'est ce qu'on appelle, il y a une très belle exposition sur ce sujet à la BNF, un manuscrit de l'extrême. Elle est exécutée en 68. Comment retrouve-t-on ces manuscrits ?
Alors ça fait partie des miracles. En fait, la petite sœur de Lin Zhao va être convoquée à la sécurité publique et un officier va lui remettre un ensemble de textes qui sont les textes de sa sœur, en lui demandant bien entendu d'oublier cette rencontre et d'oublier qu'ils se sont vus. Et à partir de là, la petite sœur de Lin Zhao va avoir d'abord très peur parce qu'elle se rend compte que ces textes sont, c'est un véritable brûlot, une bombe qu'elle a entre les mains en termes politiques. Et elle va réussir elle-même à quitter la Chine après 89 et elle va aller donc aux États-Unis. Elle remettra ses textes dans une fondation privée, la fondation Hoover.
Et Ryu Jie, le cinéaste qui consacre ses recherches pour le film qui sort en 2004, rencontre, c'était l'extrême urgence, il était temps, enfin les derniers témoins qui, chacun, quand ils en ont, apportent eux aussi des manuscrits. Et ça finit par former une nébuleuse qui est visible plus ou moins sur le net.
Oui, et Lin Zhao est devenu vraiment une figure phare de la dissidence. Le prix Nobel de la paix chinois décédé, Liu Xiaobo, parle d'elle, a écrit sur elle.
Pierraski lui consacre un livre à ce prix Nobel. C'est une des publications liées à l'anniversaire de Tiananmen.
Et aujourd'hui, c'est vrai que la figure Lin Zhao, mais aussi son lieu de sépulture, sont des lieux et de culte pour les dissidents qui, tant bien que mal, parce que cela devient de plus en plus difficile, essayent par exemple tous les 30 avril d'aller lui rendre hommage à l'anniversaire de sa mort.
Et un point commun encore de plus avec Tiananmen, c'est la présence des caméras de surveillance. Il y en a autour de la tombe, comme il y en a bien davantage autour de la place.
Ah ben ça, à partir du moment où vous avez un lieu où il peut y avoir de possibles manifestations publiques, d'une forme d'opposition quelle qu'elle soit, les caméras de surveillance sont là. Et en Chine, elles se développent de façon absolument vertigineuse sur la place Tiananmen, au cimetière où est enterré Lin Zhao, mais dans bien d'autres endroits.
Votre livre paraît aux éditions Fayard. Le film de Ryu Jie est visible sur YouTube. Et pourquoi on ne peut pas la réhabiliter complètement, même à un moment plus favorable? On ne peut jamais réhabiliter complètement.
Mais on ne peut pas réhabiliter...
Ni les droitiers, ni évidemment les gens de Tiananmen.
Non, parce que ce serait une façon pour le pouvoir en place, qui est toujours le parti communiste, de nom en tout cas, de reconnaître que Mao Tse-tung s'est trompé, qu'il a eu tort, et en particulier quelque chose de fondamental dans sa façon de penser la société chinoise n'est pas bon. Donc on ne peut pas se tirer une balle dans le pied, on ne peut pas couper la branche sur laquelle on est assise. Donc bien entendu, le Parti communiste chinois ne réhabilitera pas les droitiers complètement et surtout pas une figure comme Lin Zhao.
Merci à vous Anne Kerlan. L'émission a été préparée par Eline Canegulesco, la technique Charles Leca, la réalisation Valérie Aestaraï.